Toutes aux femmes, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer dans notre émission Tout Feu Tout Femme un sujet d'actualité, la journée internationale pour le droit des femmes qui sera célébrée partout dans le monde le 8 mars. Pour en parler avec nous, nous avons invité Madame Généret de l'association Oser le Féminisme, Mélissa Herbs, une jeune femme de 21 ans avec qui nous discuterons de ce thème et aborderons les problèmes de société liés à la femme. Mesdames, bonjour et merci de votre présence. Tout d'abord, expliquons un peu ce qu'est la journée internationale de la femme, son histoire et son intérêt d'exister.
Bonjour mesdames. Alors nous allons effectivement expliquer l'origine de cette journée. Elle est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains. Alors une naissance dans la mouvance socialiste puis soviétique. Alors le 28 février 1909, une journée nationale de la femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. En 1910, à Copenhague, l'internationale socialiste, elle, adopte l'idée d'une journée internationale des femmes, sur une proposition de Clara Zetkin, du Parti social-démocrate d'Allemagne, et puis d'Alexandra Kalantai, menchevik du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, sans malgré tout qu'une date ne soit avancée pour cela.
Alors cette journée est approuvée à l'unanimité d'une conférence réunissant 100 femmes en provenance de 17 pays. Clara Zetkin aurait souhaité par cette journée contrecarrer l'influence des féministes de la bourgeoisie sur les femmes du peuple. L'Internationale socialiste célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. En Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, plus d'un million de personnes participent au rassemblement.
Et en 1917, en Russie toujours, alors que 2 millions de soldats sont morts pendant la guerre, des femmes choisissent le dernier dimanche de février pour faire grève et réclamer du pain et la paix. Ce dimanche historique tombe le 23 février dans le calendrier julien, alors en vigueur en Russie, et le 8 mars dans le calendrier grégorien. C'est le début de la révolution russe. 4 jours plus tard, le tsar abdique et le gouvernement provisoire accorde le droit de vote aux femmes. Cette date du 8 mars est donc retenue par Lénine, qui décrète la journée internationale des femmes le 8 mars 1921 en l'honneur des femmes qui manifestèrent les premières le 8 mars 1917 à Pétrograd lors du déclenchement de la révolution russe.
Cette célébration s'étend alors à l'ensemble des pays de l'ancien bloc de l'Est et elle se manifeste de la manière suivante. Des avions apportent quotidiennement du mimosa, des violettes et des roses du Caucase et de Crimée. Les usines ont réservé des théâtres entiers uniquement pour leurs ouvrières. Cependant, en Russie, le 8 mars est un jour de rébellion des femmes travailleuses contre l'esclavage de la cuisine. Mais ce n'est qu'en 1977 que cette journée s'internationalise et elle est officialisée par les Nations Unies, invitant chaque pays de la planète à célébrer une journée pour le droit des femmes.
La journée internationale pour les droits des femmes fait partie des 87 journées internationales reconnues initiées par l'ONU. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion donc de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine et fêter les victoires et les avancées. Et en France, le 8 mars 1982, le gouvernement socialiste de François Mitterrand donne un statut officiel à la journée en France.
Mais des féministes dénoncent l'utilisation du singulier « la femme » qui induit une vision naturaliste ainsi que les opérations marketing sexistes qui ont lieu à l'occasion du 8 mars, à milieu du combat du droit des femmes. En 2013, la ministre française des droits des femmes dénonce une journée de la femme qui mettrait à l'honneur un soi-disant idéal féminin, accompagné de ses attributs, cadeaux, roses, parfums, etc., et souhaite une journée de mobilisation pour rappeler que l'égalité femmes-hommes est une priorité. Il faut rappeler que cette ministre, c'était Najat Vallaud-Belkacem.
Rappelons que les roses ont des épines. Donc on va rappeler encore brièvement les thèmes abordés ces dernières années, justement par cette journée du droit des femmes.
En 2010, on parle des épreuves endurées par les femmes déplacées.
En 2011, c'est le Comité international de la Croix-Rouge qui appelle les États et les autres entités à ne pas relâcher leurs efforts visant à empêcher les viols et les autres formes de violences sexuelles qui, chaque année, portent atteinte à la vie et à la dignité d'innombrables femmes dans les zones de conflit du monde entier, et pas que.
En 2012, un appel à de nouvelles actions visant à aider les femmes dont un proche est porté disparu afin de leur permettre de retrouver dignité et espoir.
En 2013, une promesse, c'est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes.
En 2014, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et pour tous. Et cette année, le sujet abordé est l'autonomisation des femmes. Autonomisation de l'humanité, imaginez. Cette journée mettra l'accent sur la déclaration et le programme d'action de Beijing, une feuille de route historique signée par 189 gouvernements il y a 20 ans, qui établit le programme d'action pour la réalisation du droit des femmes.
Alors Véronique et mesdames, après ce bref récapitulatif qui vous permet, pour nos auditeurs, d'y voir un petit peu plus clair, il faut bien reconnaître que si des progrès considérables ont été accomplis depuis de nombreuses années, beaucoup de graves lacunes subsistent. Beaucoup de choses restent sur le papier, mais sont peu mises en pratique dans la réalité. Et dans le cadre de cette célébration, il est approprié, à mon sens, d'évoquer l'acquis des femmes, d'avoir conscience des défis qui restent à affronter, et de porter une plus grande attention aux droits des femmes et à l'égalité entre les sexes, afin que tous soient mobilisés et apportent leur contribution.
Cependant, si le souhait des femmes est de pouvoir participer à la vie politique, économique, d'acquérir une éducation, de bénéficier de revenus, de vivre dans des sociétés exemptes de violence et de discrimination, et bien d'autres choses encore, il reste à combler les écarts qui subsistent afin que l'égalité des sexes devienne une réalité, et cela, on le sait bien.
Nous allons donc faire une pause musicale sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Tout Feu, Tout Femme. Nous écouterons Amel Bent, Ma philosophie.
Qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'y ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
C'était Amel Bent, le titre Ma philosophie. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre émission Tout feu, tout femme. Et je suis en compagnie de Valérie, de Jacqueline et de Mélissa.
Alors Véronique, nous nous posons une question dans cette émission, oui, puisqu'on se pose des questions au moment de la journée des droits des femmes. Nous sommes des femmes, mais nous nous posons des questions. La journée internationale de la femme ne se situe-t-elle pas finalement entre idéaux et réalité? Alors Jacqueline Généret, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association dans laquelle vous êtes bénévole? On n'en a pas parlé, on va vous laisser vous présenter et dire un petit peu en quoi consiste cette association Oser le féminisme.
Alors, Oser le féminisme, c'est, j'irais jusqu'à dire, si je ne suis pas bénévole, je suis militante.
D'accord.
C'est une association.
Rectification.
C'est une association, celui qui milite, hein, donc qui revendique un certain nombre de choses. Elle est dans la lignée, bien sûr, des associations féministes. Elle fait partie, d'ailleurs, de l'ensemble des associations féministes qui sont regroupées dans un mouvement, hein, qui s'appelle aussi Féministes en Mouvement. Et cette association, je n'en suis pas une bonne représentante, j'allais dire, parce que c'est une association de jeunes femmes.
Hein. Mais pas... on ne va pas faire de discrimination non, entre nous quand même.
Sérieusement, c'est important. C'est une association qui est née en 2009.
Ah, hein, en c'est tout jeune.
Absolument. Qui, donc, en général, celles que je rencontre dans cette association sont plutôt des 30-40 ans, qui en ont eu un peu ras-le-bol, justement, de voir que les choses n'avançaient pas. Et en 2009, elles ont décidé donc, de se regrouper et de créer ce mouvement donc, qui s'appelle Oser le féminisme, pour aller un petit peu au-delà, avec des méthodes un petit peu nouvelles, avec des choses qui peut-être, dont vous vous souvenez peut-être, il y a eu des choses qui ont un petit peu fait tilt chez les gens. Il y a eu « Oser le clitoris », elles avaient lancé ce slogan. Et bien, s'il y a un des tabous qui reste, c'est bien la sexualité de la femme.
C'est
ça, c'est vraiment un des derniers tabous. Hein. Donc, des marches, un certain nombre de choses. Et moi, ça m'avait intéressée, interpellée d'aller dans ce mouvement. Moi qui suis une vieille féministe, donc j'ai rejoint ce mouvement il y a quelques temps et j'y trouve mon compte. Donc, voilà.
Et est-ce que l'association est située où ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas d'antenne sur Bourgoin-Jallieu. Il y a donc une antenne sur Grenoble. Pour l'Isère, c'est la seule à ma connaissance pour l'instant. Comme je vous dis, c'est un jeune mouvement. Et moi, je ne désespère pas. Justement, j'en profite aujourd'hui
à la population.
Pour dire que s'il y a des femmes qui se reconnaissent, elles peuvent aller voir sur Internet ce que c'est que ce mouvement. Hein, tout est expliqué sur Internet, à Oser le féminisme. Et surtout, qu'elles n'hésitent pas à me faire signe. On pourrait créer une antenne sur Bourgoin-Jallieu pour lancer des actions sur Bourgoin. Puisque le but est effectivement de lancer un certain nombre d'actions, même spectaculaires au besoin, pour faire avancer les choses. Si, si, c'est vrai, je pense que c'est important de se faire voir. Il faut que les femmes soient visibles et que les révoltes des femmes, puisqu'on en est quand même aussi à la révolte, hein, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, eh bien, il faut les faire savoir et les montrer. Donc, oui, des actions visibles.
Et même l'étendre, je dirais, sur le Nord-Isère, pas spécialement Bourgoin-Jallieu, parce que le problème de la femme, il est aussi sur les territoires ruraux, sur les territoires urbains, etc. Voilà. Et de partout.
Mais ce serait bien qu'il y ait effectivement une antenne sur le Nord-Isère.
Et donc, comment faire ? Comment vous contacter
C'est pas difficile, là, je laisserai mes coordonnées, et puis tout le monde peut m'appeler, me contacter.
Voilà, alors, donc on mettra vos coordonnées sur le site de Couleur FM.
Et puis ensuite, on se rencontre, et puis on fait quelque chose. Moi, je serais très contente qu'il y ait effectivement une antenne sur le Nord-Isère.
On mettra sur notre page Tout Feu, Tout Femme vos coordonnées.
Voilà. Merci beaucoup.
Donc n'hésitez pas à créer ce nouveau groupement Oser le féminisme à Bourgoin-Jallieu. Jacqueline est prête à affronter le challenge.
Ben, je peux vous donner un petit exemple de ce que nous faisons actuellement.
Oui, bien sûr.
C'est pas forcément des grandes choses. Hein. Mais voyez, par exemple, on s'est aperçu, partout en France d'ailleurs, ça a été une réflexion, que dans l'espace public, dans la rue, dans l'espace public, ben, les femmes n'avaient pas beaucoup de place. Hein. Et un des petits signes, ça peut paraître anodin, c'est qu'il y a très peu de noms de lieux et de noms de rues qui sont des noms de femmes. Je les ai comptés sur Bourgoin, justement. Donc, je les ai comptés sur Bourgoin. Sur Bourgoin-Jallieu, nous avons 2% des noms de rues qui portent des noms et de lieux, hein, parce que les écoles sont comptées dedans. Donc, 2%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même très peu. Donc, une de nos petites actions qui peuvent devenir grandes. C'est par exemple, là je suis en train de préparer pour Bourgoin-Jallieu, mais ça a été fait au niveau donc, du département, hein, pour toutes les villes du département, un courrier au maire pour leur demander de veiller à ce que de plus en plus on rebaptise éventuellement des noms de rue, non pas en enlevant des noms de rue d'hommes, parce que là, oh là là, on va nous dire « Oh, mon Dieu, vous allez nous enlever des hommes !»
Nous allons faire un cahier des doléances.
Mais il y a tellement de rues qui ne portent pas de noms de personnes qu'il y a de la marge. Donc j'allais dire la rue des Rosiers, après tout, si on l'appelait d'une femme célèbre, ce serait quand même pas gravissime pour les Rosiers.
Je pense, hein, ils vont s'en remettre, à mon avis.
Ils s'en remettraient. Donc il faudrait vraiment ces petites actions-là les multiplier, parce que c'est important. Quand on se promène dans la rue, ça fait partie du paysage. Si on ne voit jamais de femme nulle part, c'est donc qu'il n'y a jamais eu de femme célèbre. Aucune femme n'a jamais rien fait.
Votre raccourci, là, il ne me plaît pas, moi.
Et c'est valable aussi pour tous les bâtiments publics, que ce soit école, collège, lycée, qui portent rarement... Il y avait eu un vaste débat à l'école, au collège de Saint-Chef, où ils portent toujours le nom de Colette Saint-Chef, puisque certains avaient souhaité l'appeler Camille Claudel, mais ça plaisait pas à tout le monde.
Mais nous, on a quand même l'école Simone Veil ici, quand même. Hein, il faut le dire, en plein centre, c'est une belle chose quand même.
Oui, c'est bien, mais j'allais dire, c'est dommage qu'il n'y ait que quelques femmes qui aient le droit de citer. Et Simone Veil, je l'admire beaucoup. Ah. Hein. Mais je veux dire, c'est marrant. Elle arrive à passer, mais des tas d'autres femmes, des mathématiciennes, des chercheuses. À Bourgoin-Jallieu, c'est très étonnant. On a une rue Pierre Curie, mais pas Marie Curie. Quand on sait que c'est elle qui a fait toutes les recherches et pas Pierre, eh bien... Bravo Bourgoin-Jallieu, on a eu Pierre, mais on n'aura pas Marie. Hein.
Alors Madame Jeanneret, nous allons aborder avec vous quelques points qui nous semblent importants dans cette émission. Alors effectivement, le droit des femmes, il ne faut pas seulement en faire un écrit, mais bien l'appliquer au quotidien. Et pour cela, on ne peut s'empêcher de regarder la société et de faire malheureusement quelques constats. Tout d'abord, les violences sexistes qui augmentent. Nous en avons déjà parlé dans notre émission dernièrement. Le bilan est qu'aujourd'hui, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. La loi reste insuffisante et n'est même pas respectée. Les structures d'information, de prévention, d'accueil sont sous-dotées. Que pouvons-vous nous dire sur ce sujet et que pouvons-nous surtout faire ?
Alors, vous l'avez abordé, hein, c'est le problème, c'est que la loi est là et tout devrait aller bien, mais qu'effectivement, malgré ça, d'abord, évidemment, les mentalités n'ont pas changé, mais en plus de ça, la loi n'est pas toujours appliquée. Et en particulier, il y a des recommandations qui ont été envoyées, par exemple, à tous les procureurs de traiter toutes les demandes, toutes les plaintes plaintes déposées par les femmes. Mais malheureusement, actuellement, ça n'est pas encore le cas. Et bien souvent, quand un homme n'a pas été multirécidiviste, on lui pardonne très facilement ou on met ça sous le coude. « Oh, ben ma foi, elle l'a peut-être bien cherché quelque part. » Vous voyez, ça, c'est un petit peu...
J'avais lu un article là-dessus où il disait que toutes les violences faites aux femmes étaient surtout des catégorisées comme étant des crimes passionnels.
Exactement.
Voilà. Ouais. C'est le pardon, ça.
Tout à fait. C'est-à-dire
l'excuse.
On met ça sur le compte. Ben, il n'a pas pu se retenir, le pauvre. Ou alors, peut-être qu'elle l'a un peu énervé. Ou peut-être. Voilà. Donc, en gros, un homme, quelque part, il ne pourrait pas se contenir. Il ne pourrait pas se contrôler, ni ses pulsions sexuelles, ni ses colères. Ce serait quand même étonnant. Enfin, moi, ça m'étonne beaucoup. Pourquoi un homme ne pourrait pas se contrôler ? Comment on fait, nous ?
Je dirais même autrement. Pourquoi il y en a qui savent se contrôler et pourquoi pas d'autres ?
Voilà.
Parce qu'il y a quand même une majorité, fort heureusement, d'hommes qui sont quand même pas comme ça. Mais effectivement, on peut se poser la question.
Ouais. Enfin, malgré tout, quand vous dites ça, vous savez, là, c'est malheureusement les mortes dont vous avez parlé. Mais je crois bien, je n'ai pas les chiffres exacts, donc c'est sous réserve que je le dis. Je crois qu'il y a... une femme sur 9 ou une femme sur 10 qui a subi des violences conjugales.
On a fait dernièrement toute une émission sur
c'est
sur
énorme,
le sujet.
C'est énorme.
Qu'en est-il de l'attitude des hommes dans la rue face à ces jeunes filles et femmes qui ont envie, elles, de s'habiller comme elles le souhaitent, sans subir le jugement de l'homme ou de la société, hein ? Comment est-ce que, Mélissa, vous vivez cela, vous et vos amis, hein, puisque vous êtes une jeune femme de cette décennie ? Quelles sont pour vous les choses les plus récurrentes et les plus insupportables ?
Alors... Il y en a pas mal. Déjà, c'est le matin, quand on s'habille, de se dire « Attention, cette jupe, elle est peut-être un peu trop courte pour que je puisse la mettre dans la rue comme ça, juste parce que j'en ai envie. Si je mets une jupe, est-ce que je peux oser les collants qui sont couleur chair ?» Parce que là, attention, dès que vous sortez en jupe avec des collants couleur de peau, c'est fini. Hein. Voilà, est-ce que ce problème assez récurrent, du coup, de se dire « Est-ce que je peux quand même être une femme féminine ?» Sachant que quand je vais sortir, je vais avoir des regards désobligeants.
Ce que je vais vous dire, qu'est-ce que ça provoque voilà, quelles sont les réactions
Alors, il y a les regards, il y a les... Oh, mademoiselle, vous êtes charmante, franchement, voilà, je voudrais vous payer un verre. On m'a même invité une fois à aller carrément manger un sundae au McDo, hein, parce que j'avais indiqué la route. Donc voilà, c'est quand même un peu... c'est un peu dur des fois d'être réduite...
Un bout de chair, non ?
Un bout de chair, voilà, c'est ça. On est un bout de chair lancé dans la rue et les hommes se battent. Enfin, voilà, quoi, c'est un peu...
À la femme objet, et quelle est votre réaction quand vous avez de telles réflexions ? C'est quoi ? Vous dites rien ? Vous avez envie de répondre ? Est-ce que vous avez une crainte ?
Alors, j'ai peur, déjà, ça c'est sûr. Voilà, c'est quand je suis toute seule dans la rue, la dernière fois, j'étais toute seule dans la rue piétonne le soir... J'avais les pétaches. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir... Enfin, dès qu'il y a quelqu'un derrière moi, j'ai peur. Et quand, après, par rapport aux réactions, moi, je suis assez violente. C'est-à-dire que je me laisse pas faire. Quand on me fait une réflexion, pourquoi, je l'ai dit une fois à un homme, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai pas le droit de m'habiller comme je veux, et vous, vous habillez comme vous voulez? Vous pouvez m'expliquer ça, c'est pas normal. Je lui ai dit, donc il s'est retrouvé un peu bête, et voilà. Donc on est un peu partagé, en fait, entre qu'est-ce que je fais, si je réponds, qu'est-ce qui va se passer? En même temps, j'ai bien envie de lui répondre, parce qu'il a pas à me dire ça. Et voilà, donc ça dépend des fois.
Alors, oser le féminisme, vous proposez quoi par rapport à ça? Parce que c'est compliqué, c'est vrai que ça nous arrive à toutes, en fait.
Absolument,
hein, je pense qu'on soit jeune ou pas jeune, hein, je pense que
malheureusement... Ce qu'elle dit, c'est malheureusement la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est rattaché à quelque chose de plus global, c'est-à-dire que l'espace public n'est pas féminin, l'espace public appartient aux hommes. Et c'est vrai qu'ils ne se rendent pas toujours compte que se promener dans la rue, en particulier à la tombée de la nuit, se promener dans la rue, c'est pour nous quelque chose qui nous fait peur. Et c'est vrai à tout âge. Hein. C'est-à-dire qu'on va dans certains endroits, on se dit, mais où sont les femmes? Où sont les femmes? Elles n'ont pas investi l'espace public parce qu'elles ne s'y sentent pas à leur place, tout simplement. Alors que faire? Bon, déjà, je pense que dans ce que vous avez dit, il y a une première chose, je pense, c'est déjà la solidarité féminine. C'est-à-dire que quand on est plusieurs... on a moins peur.
Oui. Hein.
Et investir l'espace public, eh ben oui, faut y aller à plusieurs. Hein. Il faut y aller à plusieurs et peut-être aussi ne pas hésiter à renvoyer aux hommes ce qu'ils sont. Hein. C'est-à-dire, elle a tout à fait raison. Hein. Ne leur dire, et pourquoi pas même avec humour, hein, c'est-à-dire leur dire, je ne vous ai pas dit, vous aviez un beau petit cul. Comme ça, au moins, ils se rendront peut-être compte.
Mais vous aussi, monsieur.
Ils vont peut-être se rendre compte un jour que ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant. On ne trouve pas ça marrant. On n'a pas envie de se faire dire ça. Je veux dire, c'est pas. Certains nous diront c'est flatteur. Non, c'est pas flatteur. Ça n'a rien de flatteur. Je veux dire, que quelqu'un que vous aimez, que votre petite amie vous le dise, pourquoi pas? Ça peut faire plaisir. Mais j'allais dire qu'un inconnu dans la rue vous dise ça, ça fait plaisir.
Alors, moi, j'ai une proposition à faire. Tiens, ça me vient comme ça à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un jeu de cartes avec des situations, justement, pour justement
donner
des réponses et mettre les hommes face à ce type de problématique? Qu'est-ce que vous feriez dans le cadre?
Alors, moi, ce qui est compliqué quand j'entends le témoignage de Mélissa, c'est que personnellement, j'ai aussi une fille et que moi, je suis tentée de lui dire, quand je la vois sortir un peu court, vêtue, eh bien, je lui dis, tu cherches pas un peu les ennuis? Et ça, alors, elle me tombe dessus à bras raccourcis. Et elle a raison, elle me dit, mais maman, c'est pas à moi de faire attention comment je m'habille.
Moi, je trouve qu'elle a raison.
Moi, j'ai peur pour elle, quoi.
Mais moi, je trouve qu'elle a raison parce que, si vous voulez, vous voyez, malheureusement, ça me rappelle une triste affaire. Hein. Certains ont dit, Charlie Hebdo, il l'avait bien cherché. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous dire que c'est celui qui est victime qui doit avant se prémunir pour pas être victime. Donc, à la limite, on en viendra nous dire que les filles, c'est bien de leur faute, elles n'ont qu'à sortir habillées, elles n'ont qu'à sortir avec pas, comme elle le disait tout à l'heure, surtout des collants couleur noire. Donc c'est idiot. Est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même bien aux hommes en question de réprimer leur geste, leur pulsion. Enfin, ce ne sont pas des animaux quand même.
Et puis je veux dire, c'est quand même agréable de voir une femme qui est bien maquillée, bien habillée, qui est féminine. C'est ça aussi la femme.
Je dirais, comme elle l'a dit tout à fait tout à l'heure, hein, ce qui est important, c'est elle, comment elle a envie.
Comment elle se sent.
Et nous toutes, comment est-ce qu'on a envie d'être? Si ce matin-là, on a envie d'être comme ça, c'est qu'on nous, dans notre glace, on se plaît comme ça. Et pourquoi le ferait-on pas? Pourquoi le ferait-on pas? C'est d'abord se plaire à soi qui est important dans la vie, d'abord.
La liberté de penser et d'exister.
Hein. Voilà. Mmh. Et vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est la liberté de s'exprimer, aussi bien à travers le vêtement qu'à travers le reste. Mmh. Et après tout, c'est à celui qui vous regarde, c'est pas un animal quand même.
Alors justement, là, le droit de disposer à disposer de son corps, aujourd'hui non plus, n'est plus un acquis, puisque certains remettent en cause l'accès à l'avortement. Alors là aussi, quoi penser de ces gens qui veulent, alors qu'on a fêté cette année les 40 ans, si je ne m'abuse, de la loi Simone Veil, alors pourquoi aussi un tel retour en arrière?
Là, effectivement, c'est une des choses qui a étonné beaucoup les femmes de ma génération, parce que nous, on s'était battus pour le droit à l'avortement, et on pensait que c'était un acquis qui serait jamais remis en cause. Hein. Moi, j'ai deux filles, et j'avoue que je les ai élevées dans cette idée que c'était un acquis. Hein. Et je suis parfois mise au pied du mur quand mes filles me disent « Mais maman, il faut continuer à se battre pour ça, c'est pas un acquis, c'est vrai. »
On ne devrait pas avoir à dire ça, on ne devrait pas être en train de se poser la question.
Mais vous voyez, les femmes de ma génération, on a cru que tout était acquis. Hein. On se réveille aussi un petit peu maintenant. Hein. C'est pas vrai, tout n'est pas acquis.
Mélissa, vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet?
Non, pas sur ce sujet spécialement.
Alors, on va passer à la pause musicale sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Tout Feu, Tout Femme, avec une une proposition de Jacqueline qui nous suggère d'écouter Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Je gardais la maison, j'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. libre aussi. Regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger.
C'était Anne Sylvestre, le titre « Une sorcière comme les autres » et c'est le choix de Jacqueline.
Alors, une autre question, Jacqueline et Mélissa. Dans la sphère privée, l'égalité est loin d'être atteinte. 70% des tâches domestiques sont aujourd'hui assurées par les femmes. La charge des enfants repose en grande partie sur elles. Alors, ne doit-on pas revoir l'éducation de nos chères têtes blondes dès l'école primaire afin qu'adolescents, ces hommes comprennent que ce ne sont pas des tâches uniquement dévolues aux femmes, hein? Bonne question, hein.
J'ai oublié qu'elle parle la première. C'est intéressant de voir ce qu'une jeune... Non, mais sérieusement, ça m'intéresse de voir ce qu'une jeune femme pense de ça.
Alors moi je suis pas spécialement concernée par ce côté les femmes font telle tâche et telle, les hommes telles autres, parce que du coup quand je vivais avec mon copain, on avait trouvé quand même un système d'équilibre où chacun faisait en fait un peu de tout. Donc je pense pas que je pense que maintenant les hommes commencent quand même un petit peu, je vais prendre avec des pincettes, à se rendre compte qu'il faut qu'ils aident et que les femmes ne peuvent pas tout faire non plus. Après, concernant les enfants, malheureusement, ils ont. Enfin, je pourrais pas vraiment parler là-dessus parce que j'en ai pas, donc je sais pas. Et enfin voilà.
Dans ce qu'elle dit, je peux pas m'empêcher de réagir. Hein. Les hommes ne doivent pas nous aider. on leur demande pas de nous aider.
On leur demande tout simplement
de partager les tâches. Il n'est pas question qu'ils nous aident. Il n'est pas question qu'on leur dise tiens, est-ce que tu peux m'aider?
Hein, donc on est bien là dans une histoire de vocabulaire d'enfance qu'on véhicule quand même.
Même si vous voulez, on est bien dans le stéréotype, c'est-à-dire que les femmes quelque part c'est leur boulot, hein. Et puis de temps en temps, il est vachement gentil et il vient donner un petit coup de main. Alors en plus de ça, par rapport à ce que vous avez dit, il y a quand même des statistiques, hein, hélas malheureusement, hein, aussi bien chez les jeunes, hein, malheureusement. On pouvait penser que les jeunes allaient être différents. Mais en fait, dans les statistiques de l'INSEE, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est concerné. Hein. Une statistique, c'est bien une moyenne. C'est parce qu'il y a certainement des hommes qui en font 50%, puis d'autres qui en font rien du tout. Hein. Donc, une moyenne, c'est une moyenne. Mais globalement, malheureusement, effectivement, on en est toujours à 70-80% des tâches domestiques assurées par les femmes. Et en plus de ça, malheureusement, par rapport à ce qui a été dit, hélas, quand dans les jeunes couples, on a plus d'équilibre, c'est vrai. Mais malheureusement, et c'est bien plus grave que ce que vous pensez, dès la naissance du premier enfant, la femme en fait un peu plus et l'homme un peu moins. Le deuxième enfant, encore pire, Et alors, s'il y a trois enfants, on retombe dans des choses. C'est
dans
vrai,
les
mais
hélas,
j'allais dire. Ou alors, faut que les femmes maintiennent la pression, peut-être aussi, hein, parce que peut-être aussi qu'elles ont quelque chose à faire là-dedans. J'allais dire peut-être que certaines femmes ont trop tendance à faire.
Oui, mais là, justement, dans ma question, c'est la question que je posais. C'est, est-ce que là, on touche pas à quelque chose qui est du domaine de l'éducation, de la petite enfance, du rôle que la mère a chez elle et donc qu'elle en renvoie.
Mais
ses enfants.
C'est plus global que ça. Vous verrez, ça touche à tous les autres sujets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi, c'est pas que dans l'éducation. C'est aussi parce que même si dans votre famille, à vous, hein, moi j'ai essayé d'élever mes enfants avec le plus d'égalité possible, mais j'allais dire, on n'est pas tout seul dans une éducation. Il y a la télé, il y a les journaux, il y a la radio, il y a tout. Et qu'est-ce qu'on nous montre dans les publicités ? Alors là, la publicité, excusez-moi, sur le rôle domestique de la femme, on peut y aller, hein. On a toujours soit un aspirateur à la main, soit on a fait la meilleure cuisine du monde, soit... Enfin, c'est la publicité, on peut en parler pendant des siècles. Hein.
Alors justement, c'est tout ce qui est véhiculé, tous ces stéréotypes qui sont véhiculés par les médias, comme vous dites, la télé, la télévision, la radio, toutes les affiches publicitaires, en principe, vous avez la jolie femme avec la belle voiture, mais c'est le monsieur souvent qui conduit. Quoique maintenant, on voit des dames qui conduisent aussi. Dans les nouvelles publicités.
Oui.
Mais il y a vraiment des choses qui sont... voilà,
mais
qui
elles
sont...
conduisent, mais il faut qu'elles soient belles. Hein.
Voilà, on n'en voit pas des...
Faut qu'elles soient la ménagère de plus de 50 ans.
Ce que l'on montre aux jeunes, alors je ne sais pas si... Ce que l'on montre aux jeunes, en fait, en tout cas, c'est qu'il faut rester jeune et belle, hein, de toute façon.
Non, c'est le cas de Mélissa, donc elle n'a pas de soucis.
Mélissa, tu voulais dire quelque chose?
Oui, moi, j'avais été un peu choquée par une des dernières pubs de voiture qui... en gros, un homme qui arrive vers une femme et qui lui dit, donc elle est au volant, lui dit « Oui, je peux peut-être vous aider à vous garer ?» Il dit « Non, vous avez juste à appuyer sur le bouton. » Oui, alors ça, en gros, une femme n'est pas capable d'appuyer sur un bouton pour conduire. La logique de la vidéo, c'était ça, et je me suis dit quand même... Déjà, on est réduit à des objets, mais en plus des objets qui vraiment
ne pensent pas,
ne savent rien faire.
Ça a pas de cerveau, mesdames.
Oui,
enfin.
Mais voilà, mais c'est horrible.
Alors, de nombreuses femmes, parce qu'elles habitent dans des zones abandonnées par les pouvoirs publics, en banlieue ou en zone rurale, hein, peu importe, ou parce qu'elles sont migrantes, cumulent des discriminations et se retrouvent parfois en grande difficulté. Comment gérer ce problème aussi ? Est-ce que vous avez des suggestions ?
Encore une fois, c'est malheureusement un problème global. C'est-à-dire que dans une société telle qu'elle est actuellement, ben, c'est évident que de toute façon, les femmes étant discriminées, eh ben, elles vont être multiplement discriminées. C'est-à-dire que si elles sont en plus pauvres, qu'elles n'ont en plus pas eu suffisamment d'éducation et qu'elles habitent dans des... C'est elles qui vont cumuler tout, si vous voulez. Donc, on ne peut pas traiter ce problème tout seul. C'est pas possible, on peut pas le traiter tout seul. Alors on peut faire des micro-actions, mais on pourra pas traiter le problème tout seul tant qu'il sera pas traité globalement. Et tant que le problème de l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas traité, comme vous le disiez, à la fois à l'école, à la fois dans les médias, à la fois dans la société, ça peut pas se traiter tout seul par un petit bout.
Alors, autre domaine, le monde du travail, avec les fameuses inégalités de salaire, de retraite. 21% de différence entre les femmes et les hommes, et les femmes sont quasiment les seules à avoir des emplois à temps partiel, 80%. Si sur ce sujet, on peut imaginer que cela pourrait résoudre aisément par une simple volonté politique, mais il n'en est rien. Qu'en penser que notre monde fait pour aider les femmes justement à être dans l'égalité? Alors, on a des quinzaines, on a des tas de choses sur l'égalité homme-femme, et puis on s'aperçoit qu'effectivement, on n'y arrive pas. Alors là, il y a les derniers sondages qui sont sortis, je crois qu'on était arrivé à 8% sur certaines tranches, mais bon, je...
Mais là encore, on est vraiment dans le stéréotype, c'est-à-dire que même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'entends des gens très bien, hein, des experts et tout ce que l'on veut, et des politiques dire... Le problème, par exemple, le père de famille est au chômage. Comme si, elle, qu'elle y soit ou pas au chômage, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas que l'homme qui est en train d'entretenir sa famille. Or, on nous bassine toujours avec ça. C'est-à-dire qu'on nous continue de nous
patriarche.
Dire... Voilà, un homme doit entretenir sa famille. Et en plus de ça, quand on sait maintenant qu'il y a beaucoup de familles monoparentales et qui sont des familles de femmes, hein, parce que monoparentales, je crois que c'est plus de 80% ou 90% des familles monoparentales, c'est une femme avec des enfants. Hein. Donc, si on parle du travail des femmes, C'est quelque chose, j'allais dire, d'indispensable. On ne peut pas ne pas parler du travail des femmes.
Alors là aussi, il y a une grosse nouveauté aussi qui arrive un petit peu partout, c'est de se dire, en période de crise, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux que les femmes restent à la maison, s'occupent des enfants, pour donner un petit peu plus d'emploi aux autres? Alors, on n'en est pas encore arrivé à donner de l'argent, mais ça s'entend de plus en plus.
Et malheureusement, quand on regarde l'Allemagne, c'est quand même ce qui se passe en Allemagne.
Alors, je vous rassure, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça se passe depuis longtemps.
Oui,
c'est intégré dans leur culture et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe.
Absolument.
La femme, elle est dévolue à la maison et aux enfants.
Donc je crois que là, pour le coup, ça m'intéresse d'autant plus, si vous voulez, que dans mon métier précédent, j'étais conseillère d'orientation et directrice d'un CIO et j'ai milité toute ma carrière pour ce qu'on appelait à l'époque l'orientation des filles. Et justement, pour lutter contre les stéréotypes, hein, pour qu'une femme pense autant à se réaliser à travers une carrière qu'un homme, hein, et qu'elle soit capable, dès qu'elle est jeune, de se projeter dans un métier, mais comme étant non pas simplement « Oh ben, faut bien que je fasse quelque chose qui me plaise. » Ben non, il faut faire quelque chose pour gagner sa vie, pour être autonome et pour subvenir à ses besoins sans être dans la dépendance d'un homme.
Alors moi, ce qui me choque dans tout ça, si vous voulez, c'est que sur le papier, les lois, les politiciens, on a tous débattu, on a tous entendu au Parlement, au Sénat, etc., vu adopter des lois pour la femme, l'égalité des droits, etc. Et en fin de compte, tout ce qui est sur ce papier, il n'est pas mis en action. Alors c'est quand même terrible, quoi. On a des lois, mais on les applique pas.
Oui, mais vous avez vu, regardez le problème de la parité. En fait, la loi, c'est une chose, mais tant que la loi n'oblige pas, elle n'est pas appliquée.
Donc, ça veut dire quand même que...
C'est les mentalités.
Voilà, il faut bien, au cœur des familles, commencer à changer. Donc, c'est bien une question d'éducation, une question de ce qu'on véhicule, alors, à ce moment-là, dès la tendre enfance.
Encore une fois, je vous dis, c'est sûr, c'est très important. Mais au-delà de la famille, nos enfants... Ils sont dans une société, ils ne sont pas que dans leur famille.
Oui, mais après, ils se retrouvent dans la société, donc ils appliquent ce qu'ils ont...
Bien sûr, c'est très important, l'éducation familiale. Mais j'allais dire, si l'enfant chez lui, il voit un certain modèle à travers ses parents, mais que toute la société lui renvoie un autre modèle, il va bien aussi falloir qu'il se situe.
Oui, il ne sert à rien de légiférer si la société ne change pas.
Exactement.
Déjà à la base.
Voilà.
C'est-à-dire que nous, au sein de la structure familiale, mais aussi au sein de l'éducation nationale,
absolument,
au sein de tous les organismes qui ont en charge l'éducation des enfants, parce que si on ne fait pas cela à la base, de légiférer ne servira à rien. C'est comme un peu... Alors moi, je ne sais pas que je vais m'offusquer là-dessus, puisque Valérie va en parler tout de suite après, notamment dans la parité homme-femme en milieu politique. C'est bien, mais ça a aussi des effets pervers dont il faut faire très attention. Idem dans tout ce qui est égalité professionnelle. On demande maintenant, on dit que les jeunes femmes doivent aller y compris vers des métiers qui étaient réservés jusqu'alors aux hommes. Mais il faudra penser aussi à faire la chose dans le sens inverse, c'est-à-dire des métiers qui étaient réservés aux femmes, qui puissent être accessibles aux hommes. À ce moment-là, on aura peut-être la parité aussi dans le milieu professionnel.
Je suis bien d'accord avec vous, mais vous savez, hélas, j'allais dire, il y a beaucoup plus de métiers qui sont interdits aux femmes que de métiers qui sont interdits aux hommes.
Et puis le comportement,
ça craint pas la gelée.
Le comportement des hommes aussi dans le milieu, dans le milieu du travail. Hein, Mélissa, tu peux peut-être nous en parler un petit peu, toi, par rapport à tes expériences dans le travail et de l'attitude des hommes vis-à-vis des femmes dans le travail.
J'ai pas vraiment subi de discrimination par rapport au fait que j'étais une femme, hein, mis à part attends, je vais peut-être t'aider à porter ça, c'est peut-être lourd, attends, non, je vais pas te donner ça, franchement, c'est trop difficile à faire. Bon, mais ça, à la limite, en même temps, j'étais bien contente parce que c'était extrêmement lourd et que je pouvais pas le porter. Mais voilà, après, j'ai pas été vraiment témoin d'actions qui pouvaient être discriminatoires par rapport aux femmes. Ça, je peux pas trop témoigner là-dessus.
La plus grande discrimination dans le travail, déjà, c'est que de toute façon, les postes les plus importants sont réservés aux hommes.
Et que
les carrières des hommes se font alors que celles des femmes ne se font pas. C'est déjà une discrimination extrêmement importante.
Alors, justement, les possibilités pour les femmes de prendre des responsabilités politiques, associatives ou syndicales sont encore l'objet de combats quotidiens, on peut le dire. Mais la représentation des femmes en politique, elle progresse lentement quand même. Et malgré la loi sur la parité, on ne compte encore que 27% des femmes à l'Assemblée, 25% au Sénat. Et si l'on sait bien que dès qu'une femme est à la tête d'une association ou d'un mouvement politique ou syndical, on tente de lui faire manger la terre. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, mais c'est une réalité. Elle doit se battre au centuple pour prouver ses compétences, et même après les avoir prouvées, il n'en demeure pas moins qu'elle reste sous pression constante, quoi qu'en disent des gens. Eh bien, pour moi, c'est une attitude sournoise, bien souvent, mais elle existe bien, cette attitude-là. Alors pourquoi ? Comment changer ça aussi ?
Disons que ça existe pour la bonne raison que nous sommes dans une société, il faut quand même dire les choses avec des vrais mots, où il y a des dominants et des dominés.
Oui, c'est vrai.
Et lorsque l'on est dans la sphère des dominés et qu'on accède à la sphère des dominants, pour parler un petit peu caricaturalement, eh bien, effectivement, on n'est pas reconnu comme étant à sa vraie place. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire que là, il faut se bagarrer sans cesse, parce qu'on n'est pas dans un monde qui est le nôtre.
Mais c'est épuisant quand même.
Mais
hein,
c'est
parce
épuisant.
Que pour l'avoir vécu, je trouve que c'est fatigant quand même d'être toujours dans cette bataille de pouvoir. De...
Vous savez, c'était, je crois que c'est François Giroud qui avait dit l'égalité sera atteinte lorsqu'il y aura des femmes incompétentes à des postes importants.
Voilà. Oui, tout à fait.
Le fait est, on ne pardonne pas à une femme sa moindre incompétence, on ne la lui pardonne pas, alors que des hommes incompétents à des postes importants,
ça,
on connaît.
Ça, c'est pas grave.
Ça, j'allais dire. Mais il est à
on n'a pas le droit de citer.
Mais il est à sa place, j'allais dire. Il est parmi les hommes. Il est neutre parmi les neutres. Donc, il passe bien. Mais nous, oui, il faut qu'on se bagarre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut qu'on se bagarre. Comme il faut se bagarrer dans la rue pour exister. Voilà, il faut se bagarrer pour exister. Oui, c'est vrai. Pour revenir juste ce que vous avez dit sur la parité en politique. Là aussi, on le voit. C'est-à-dire qu'aux dernières élections municipales, vous voyez, il y a 40% de femmes qui ont été élues. C'est beaucoup, si on peut dire. C'est un gros progrès. Ouais. Les listes étaient obligées d'être mixtes, rappelez-vous. Mais ce qui est très intéressant à voir, et qui nous ramène à la discussion qu'on a eue, c'est que sur ces conseils municipaux, il y a 40% de conseillères. Eh bien, lorsqu'on passe à l'élection du maire, nous n'avons plus que 16% de femmes qui sont maires. Parce que forcément, là, ça devient autre chose.
Alors, moi, j'aurais une question, c'est est-ce qu'elle ne s'auto-censure pas non plus de peur de ne pas réussir aussi bien qu'un homme et de manquer de temps, etc. Parce qu'on connaît aussi beaucoup de femmes qui aimeraient s'investir, mais elles se disent je n'y arriverai pas parce que j'ai les enfants, j'ai le travail, etc.
Dire
il y a de l'auto-censure.
Mais évidemment, mais quelque part, j'allais dire, elles n'y pensent même pas. Enfin, je veux dire, quand on est dans un monde où c'est même pas envisageable, bien entendu qu'on l'envisage même pas. Je veux dire, c'est vrai que dans les grandes villes, et ça les 16% de maires, c'est souvent pas dans des grandes villes. Il n'y a que l'exemple de Paris, mais ça a été un petit peu une exception. Les grandes villes en France sont presque toutes dirigées par des hommes. Et les femmes, quelque part, n'y avaient même pas leur place. Je veux dire, même pas y penser, quoi.
Alors, on voit quand même aussi Moi, ce qui m'interpelle quand on voit les femmes en politique, justement, c'est que on a l'impression que n'existent que les femmes qui ont un caractère, je dirais, très mordant et presque agressif entre guillemets. Sinon, les autres, on les prend pour des espèces de poupées qui n'ont pas le droit de citer. C'est terrible, quoi.
C'est ce que vous avez dit vous-même, elles sont en train de se bagarrer. Ouais. Donc bien sûr qu'elles prennent des attitudes que peut-être elles ne sont pas la base. Mais oui, parce qu'il faut qu'elles se bagarrent avec les hommes, encore une fois.
Mais quand on voit ce qui s'est passé aussi à l'Assemblée nationale, que les femmes se font huer ou on entend des cotes-cotes parce que ce sont des femmes et qu'elles interviennent, là aussi c'est scandaleux. Je veux dire, c'est la classe politique qui donne le mauvais exemple.
Ça passe sur les antennes nationales.
Et pour le coup, j'allais dire, je crois même qu'on peut aller jusqu'à dire que l'Assemblée nationale est beaucoup plus machiste que ce que l'on voit, dans notre vie. Moi, j'ai été choquée. Je ne le vois pas, ça, dans la vie courante. Les députés sont pires que les hommes de nos vies courantes.
Et c'est eux qui votent les lois. C'est eux qui votent les lois.
J'ai pas vu beaucoup d'hommes, si vous voulez, crier côte-côte quand on était en robe avec des fleurs. Ça, c'est typique d'un machisme de l'Assemblée nationale. Ça, c'est très choquant.
Et c'est eux qui votent nos lois.
Oui, c'est ça qui me pue.
Non, mais c'est lamentable. C'est lamentable, c'est tout. C'est lamentable, tout juste lamentable.
Alors bon, il y a quand même du travail encore.
Il y a du boulot.
Vite créons cette association sur Bourgogne-Jallieu.
C'est vrai, il y a du boulot.
Mais justement, après, il faut trouver le juste milieu là aussi pour qu'on ne nous taxe pas de vouloir trop en faire. Il faut toujours, à la limite, le travail d'une femme, qu'elle soit en politique, en association ou dans l'entreprise, est 10 fois plus difficile, et tu l'as très bien dit, parce qu'on va être jugé sur des critères dont les hommes ne seraient même pas jugés.
Oui, mais c'est vrai,
si nous, on a un enfant malade et qu'on va s'en occuper, on va dire « Ah, parce que c'est une femme, pourquoi le monsieur, il ne serait pas allé s'occuper de l'enfant ?» tout ça,
Mais le problème aussi, c'est qu'actuellement, dans la société, pour défendre un peu les hommes, j'allais dire, Un homme qui oserait dire « je reste chez moi pour m'occuper de mon enfant malade », c'est pas dit que son chef de service le raillerait pas, même voir. « Ah ben, qu'est-ce qui te prend ?» Non, non, je vous assure, c'est pas si simple que ça.
Ah, c'est sûr. Hein?
Donc, c'est pourquoi je ramène toujours à la même chose, c'est une question quand même de faire évoluer aussi les mentalités. Parce que le jour où, effectivement, un homme pourra dire « je pose un jour de congé parce que j'ai un enfant malade », on n'en est quand même pas encore là.
Parce que là, avec le congé parental, c'est pareil, on avait espéré que les hommes prennent ce congé parental. Mais j'ai l'impression qu'il y a...
Mais au moins, je suis tout à fait contente, moi, que la loi ait changé, parce que là, pour le coup, soit ils le prennent, soit ils ne le prennent pas, mais il sera perdu. Donc ça peut être quand même... Vous voyez, moi, je suis pour les incitations, je suis pour les incitations fortes. Hein, parce que tant qu'on... Et là, par exemple, pour les élections qui viennent, dont on parle malheureusement peu, on a obligé à avoir des
binômes.
Des binômes, hein. Mais vous allez voir que là, pour le coup, ça va être... Vous vous rendez compte, actuellement, on a 13% de femmes seulement dans les conseils généraux. J'ai l'impression que là, les nouveaux conseils généraux, ils vont plus savoir où ils en sont, là, parce qu'ils vont voir arriver 50% de femmes d'un coup.
Si on en est à ça, il y a peut-être aussi une raison, parce que moi, je perçois aussi dans la jeunesse que je côtoie beaucoup un manque d'attrait à la politique et à l'implication tout simplement civique. Je ne sais pas, Mélissa, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la population de ton âge quand on leur parle de, bien souvent, quand on leur parle de voter, etc., c'est tout juste s'ils ont envie d'y aller.
Ah ben on n'a pas envie d'y aller.
C'est à tort. Les femmes ont eu le droit de vote qu'en 45. Et si tu renies ce droit, c'est grave.
Je sais bien. Grave.
Je parle de manière générale.
Qui m'a répété souvent qu'effectivement, toute ma jeunesse, il faut que tu votes. Quand tu as le droit de vote, il faudra que tu votes. Ça, je le sais bien. Après, le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à s'identifier. Pourquoi est-ce qu'on va voter alors qu'on ne sait pas pour qui on va voter, que dans tous les cas, peu importe qui sera élu, ce sera le même bordel.
Mais vote blanc, au moins il est compté maintenant.
Moi, je suis d'accord.
Il n'est pas reconnu. Si, maintenant, depuis la nouvelle loi, il est reconnu. Donc, vote blanc, il vaut mieux voter blanc que de ne rien voter.
C'est ce que je dis.
Au moins, tu diras, celui-là ne m'intéressait pas. Celui-là ne m'intéressait pas. Les mecs, écoutez-moi une seconde. Moi, je vote blanc parce que tout ce que vous me proposez, ça ne me convient pas.
Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Enfin, bon, ça fait pas longtemps que j'ai le droit de vote non plus. Hein, mais
on s'est battu pour votre droit de vote, mesdames.
J'ai toujours voté blanc. Parce que je ne m'identifiais pas au candidat. Et quand je disais à mes amis, ils me disaient « Oui, mais le vote blanc, ça ne sert à rien. »
Plus maintenant.
Oui, peut-être. En attendant, je donne ma voix, je la donne ni aux extrêmes, ni aux partis plus ou moins normaux, on va dire. Donc voilà.
Mais c'est ce qu'elle dit, c'est quand même aussi ce qui se passe globalement actuellement. Ouais. C'est-à-dire que la confiance dans les politiques, elle est quand même bien redescendue.
Les jeunes ne se sentent pas...
Mais pas que les jeunes. Hein, je veux dire, la confiance dans la classe politique, il va falloir que les choses évoluent. Sinon, la classe politique, elle se discrédite. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Assemblée nationale ne nous incite pas non plus. Hein.
Donc, on parlait de la parité. Il faut revenir au sujet initial. Mais c'est vrai que un équilibre, c'est ce à quoi je voulais aboutir dans cette discussion, c'est que il faut quand même que tout le monde comprenne qu'on a besoin d'un équilibre homme-femme et que sans cet équilibre, rien ne marche. Mais pour ça, il faut avoir les mêmes droits, les mêmes obligations aussi. Hein. Ce qui dit droit dit aussi obligation. Est-ce qu'on va évoluer, espérons?
Ben, si on milite, c'est qu'on y croit toujours.
On y croit.
Moi, j'y crois.
Et il faut que nos jeunes y croient et qu'ils militent aussi, parce
absolument.
Que c'est par eux que les choses vont bouger. Nous, on est vieux, on est vieilles, donc on veut bien vous aider, mais il faut que vous preniez aussi par la main et que vous démissionniez
mais
pas.
Je pense que les jeunes ont vraiment conscience de ce qui se passe. Et seulement, soit on n'a pas forcément les opportunités pour vraiment s'investir, soit on ne nous laisse pas la chance aussi de pouvoir le faire. Donc c'est vrai que...
C'est quand même des milieux fermés, moi je suis d'accord avec Mélissa, le milieu politique ça reste un milieu fermé qui est pas forcément ouvert à tout le monde ou qui est aussi du copinage, c'est le copain du copain qui est là, qui est machin. C'est quand même ça une réalité qui est un peu compliquée.
Je pense qu'il y a aussi une façon, on peut inventer autre chose, il y a des mouvements citoyens, il y a des mouvements citoyens. Je veux dire, la politique, elle est telle qu'elle est encore.
Les mouvements citoyens, vous m'excusez, mais.
Non, mais bon, je veux dire.
C'est un peu compliqué parce que. Non, mais
les jeunes ont le droit d'inventer quelque chose de nouveau,
bien sûr. Mais même quand on crée des mouvements citoyens, ces mouvements citoyens sont bien souvent écrasés par les autres mouvements. Donc là, voilà, il faut
Des nouvelles formes sont possibles. Moi, je pense qu'on est une société, elle est
bien
toujours
sûr.
En pleine évolution. Et la jeune génération apportera forcément des changements.
Il y a intérêt d'en apporter. On les attend, nous, ces changements.
Non, mais c'est vrai. Mais vous vous rendez compte qu'actuellement, on est gouverné par des gens qui ont tous plus de 60 ans. Donc, bon, c'est vrai que ça peut pas correspondre aux jeunes, c'est évident, c'est évident.
Alors, il faut que nos jeunes se mettent à la tâche, hein, pour la parité, pour l'égalité, et pour tout un tas de choses.
Moi, je pense que déjà, pour l'égalité et la parité, il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place, et que quand j'en discute avec d'autres filles, ou même certains garçons, pas tous, on est quand même tous d'accord pour dire qu'effectivement, certaines inégalités sont trop importantes et invisibles, quoi, donc... À ce niveau-là, déjà, c'est bon.
Et qu'on a une ministre qui nous avait bien engagé, Nadia Vallaud-Belkacem. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais elle a quand même fait beaucoup de choses pour les femmes. Ça serait bien que ça continue et que ça ne soit pas enterré. Avant notre conclusion, on fait une pause musicale dans Couleur FM 97.1 dans l'émission Tout Feu Tout Femme. Nous allons écouter un choix de Mélissa qui nous propose d'écouter Michel Sardou, femme des années 80.
Nous propulse loin.
Nous propulse très loin.
Très, très.
Dans un voyage en absurdité que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton. Être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, aimée ici impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa, femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'aux propres jartelles et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire porter la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus, femme conducteur d'autobus, forte d'éal, vendeuse aux puces, qu'on a envie d'appeler Georges, mais quand même bien sans soutien-gorge. Mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombie de Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse et femme banquière planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, et Messie-ci impératrice. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton, femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonner jusqu'au port, j'appelle et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à
C'était donc le choix de Mélissa, Michel Sardou, les années 80. On a fait un grand bond en arrière. Donc vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Tout Feu Tout Femme. Et je suis en compagnie de Mélissa, Jacqueline et Valérie. Et nous arrivons au terme de cette émission et à la conclusion. On a encore plein de choses à dire. On a parlé hors antenne de tout ce qu'on aurait eu envie de se dire. Mais bon, on a un temps imparti d'une heure et nous voici à la fin de cette heure. Alors nous avons abordé durant cette heure tous les sujets principaux de façon succincte sur les droits des femmes. Et puis nous avons fait beaucoup de constats sur l'évolution de ces 40 dernières années qui sont dramatiques dans certains cas, notamment dans d'autres pays du monde. Et malheureusement, comme en France, il y a aussi une certaine régression. Alors on n'oublie pas de fêter la journée internationale des droits des femmes. Et là, je fais un clin d'œil à Jacqueline, puisqu'effectivement, nous avons eu un grand débat hors antenne sur de la femme ou des femmes. Donc le 8 mars, on fête les femmes. On va dans toutes les manifestations qui auront lieu entre le 7 et le 8 mars. Il y a plein de choses intéressantes sur le territoire. N'hésitez pas à consulter tous les sites internet du territoire pour vous renseigner sur ce qu'on peut faire pendant ces jours-là. Et puis, dans certains pays, comme l'Italie, on offre du mimosa. Alors, offrons-nous du mimosa, des roses,
voilà, des fleurs, oui, mais pas que.
Mais pas que.
Moi, je dirais pas des fleurs. Hein. Moi, c'est vraiment une journée de lutte. Hein. C'est pas la fête de la femme.
C'est beau, les fleurs.
C'est la lutte.
On peut se faire plaisir aussi. Ouais. Allez, un brin de mimosa, ça sent bon, ça sent du soleil.
Offrir des roses.
Moi, je m'inscris complètement en faux.
Moi, je vais offrir des fleurs aux femmes et à moi-même en premier. Voilà, mesdames.
Moi, je vais lutter.
Eh bien, alors, luttons.
Allez. Nous vous remercions et puis on n'hésite pas. L'association Oser le féminisme, vous allez sur le site internet, vous trouverez plein d'informations. Merci Valérie, merci Jacqueline, merci Mélissa.
Merci,
et puis on va continuer à lutter ensemble.
À bientôt sur Couleur FM.
Tout feu, tout femme, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM
97.1
avec Véronique
et Valérie.